C'est autour de cet accompagnement des enseignants sur l'analyse réflexive d'une innovation, innovation au sens de Crow, pardon, c'est-à-dire innovation du point de vue des acteurs eux-mêmes dans un contexte particulier, ici les classes sans notes. Et donc il y avait trois thématiques pour rappeler le fonctionnement du GRD. Il y avait trois thématiques. La première thématique, c'est celle sur le co-enseignement, me semble-t-il. Donc on a entendu par exemple votre communication là-dessus. La seconde, c'était sur autour de la littératie, je crois que c'est ça. Et donc la troisième, c'était sur rôle et place de l'évaluation dans les processus d'enseignement-apprentissage, si je ne m'abuse. Donc c'est dans cette troisième thématique que je me suis inscrit, alors notamment à l'invitation de Brigitte Lacoste, pour redire, j'ai oublié. Je m'inscris également donc à l'invitation de certains collègues, parce que de formation, je suis prof des écoles, j'ai enseigné pendant 17 ans, dont 15 ans comme enseignant spécialisé en SECPA, en éducation prioritaire. Donc c'est une question qui, voilà, qui me taraude depuis très longtemps, ce sont des questions plurielles qui me taraudent depuis longtemps. Et donc, le rôle et place de l'évaluation, comme je le disais à Laurence tout à l'heure ou ce midi, j'ai rajouté une petite diapo liée aux discussions de ce matin, sur notamment des questions entre voilà, les différents facteurs qui interviennent. Donc, clin d'œil à un travail de Philippe Pernoud sur la triple fabrication de l'échec scolaire. L'une des focales qu'il présente, cette fabrication, c'est la fabrication autour du jugement, donc des évaluations. Donc, on peut s'interroger, je ne vais pas tout repasser. Il y a des dimensions qu'on a évoquées ensemble. Mais en tout cas, le point de vue de l'enseignant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on évalue. Voilà. Et on fera un clin d'œil là-dessus aussi. C'est une question qui a été reprise, que ce soit par les copilotes du REP ou que ce soit par les enseignants eux-mêmes, qui, sur le terrain, font face, ou en tout cas, expérimentent, innovent avec ces classes sans notes. Clin d'œil également à une formule qui m'est chère, une formule qui a une cinquantaine d'années, pas d'indifférence aux différences de Bourdieu, qui finalement devient petit à petit aussi également le slogan de l'école inclusive. Clin d'œil plutôt à Charles Gardou ici, ou à des collègues plus locaux, comme Philippe Mazereau par exemple. Le cadre que j'ai emprunté pour ce GRD, c'est le cadre de l'ergonomie cognitive de l'activité enseignante, plutôt employé donc originellement par René Amig, maintenant Frédéric Soja, donc c'est toute l'équipe ERGAP à Marseille, qui se focalise sur les préoccupations des professionnels. Donc on est vraiment sur une approche du point de vue du professionnel sujet de son activité. Donc ce sont des interventions en milieu professionnel qui vont vraiment chercher à investiguer, à rechercher et à partir des préoccupations des professionnels. Donc c'est un cadre qui, d'un point de vue scientifique, cherche vraiment cette articulation entre les préoccupations des professionnels et les questions de recherche. Avec une focale dans ce travail, je vais vous présenter une focale plus précise sur les dilemmes des professionnels, cette fois-ci donc dilemme en termes de pratique évaluative. Dilemme, donc, c'est un concept développé essentiellement par Yves Clos, repris dans différents travaux. Il y a eu récemment, il y a un appel à contribution là-dessus sur la revue de Montpellier, sur les difficultés des enseignants en lien avec les dilemmes. Et je vous ai mis une définition récente d'une collègue qui avait travaillé sur les dilemmes des collègues formateurs qui accompagnent les jeunes enseignants. Donc là, en tout cas, d'un point de vue générique, une mise en concurrence de deux actions possibles. Donc on est sur des postures ou des motifs qui s'affrontent. Voilà, est-ce que je fais plutôt comme ci, plutôt comme ça? Mais avec des débats de pratique, mais également là, des débats de normes. C'est-à-dire qu'on nous a dit de faire comme ça, mais est-ce que vraiment c'est possible? Souvent, on répond à une commande, on le parlait juste avant, tu parlais, Jean-Philippe, voilà, de prescriptions, que ce soit dans les textes, que ce soit celles des formateurs, celles des inspecteurs, parfois les conseils de nos collègues, on répond tous plus ou moins à des prescriptions, c'est le point de vue de l'ergonomie cognitive aussi, celle-ci. Et donc, je m'appuie sur le travail de Dequetel, qui, pour lui, notamment sur les pratiques évaluatives, faire émerger les dilemmes, c'est source de développement professionnel. Donc voilà. Je lis dès maintenant, finalement, les dilemmes dans ce travail sont pour moi mes objets de recherche. Et en même temps, c'était un moyen de faire réfléchir les collègues sur leurs propres pratiques d'évaluation, sans les notes. Donc, le terrain de recherche pour ces classes sans notes au Collège Pagnol, maintenant Stephen Hawking. Donc là, je vous ai mis par année, année 1, année 2. Donc, la première année, en dehors de toutes les dimensions initiales de construction du projet collectif avec d'autres réunions à une autre échelle, CARDI, etc. En tout cas, dans l'établissement, donc c'était une rencontre initiale avec les copilotes, différents donc, copilotes du réseau d'éducation prioritaire renforcée, puis une focale avec des frontières plus ou moins, il y a bien plus ou moins disciplinaires, pôle sciences, pôle lettres, et puis les collègues langue et EPS. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, à la suite de ces entretiens collectifs, déjà à ce moment-là, j'ai pu identifier les principales pratiques, difficultés, préoccupations. Et j'ai présenté ces résultats, on va dire, intermédiaires, provisoires, lors d'une réunion de restitution et d'échange en novembre 2017, qui a également été un moment d'échange. Donc, je vais revenir sur ça. C'est que le but, c'est que on avance dans une co-construction entre les hypothèses du chercheur et puis, à chaque fois, on le donne à discuter par le collectif enseignant, en disant « oui, ça, c'est difficile, c'est pas difficile, ça, c'est une vraie préoccupation pour moi ou pas ». Et puis, j'y reviendrai peut-être, mais des échanges entre enseignants qui démarrent parfois assez naturellement sans même qu'on ait prévu tel ou tel questionnement. Ça aboutit, comme on est sur un GRD, recherche et développement, ça aboutit à une journée de formation de 6 heures hein, complète en avril 2018, faite à la demande de l'équipe de direction du collège. Et on avait une quinzaine d'enseignants, pas que, il y avait aussi la collègue IEN, il y avait d'autres collègues également. Et donc l'entretien, le type focus group dont j'ai parlé avant, le but, c'est de regrouper les collègues avec des frontières en termes de préoccupations assez proches. Lorsque j'interroge les copilotes, ce qui m'intéressait beaucoup, on va le voir ensuite sur le guide d'entretien, c'était de qu'ils m'expliquent la genèse du projet, qu'ils m'expliquent voilà, quelles étaient les premières résistances, et puis là où on en était, quels étaient les avantages, les potentielles perspectives de travail de ce collectif. Et puis, dans les focales disciplinaires, c'était lorsqu'on aborde l'évaluation, j'avais des collègues didacticiens juste avant, c'était de croiser ces préoccupations de professionnels avec un regard qui ne peut pas être didactique, enfin, ou ça ne peut ne pas être didactique, plutôt, ça c'est plus français. Et donc, c'était pour avoir des préoccupations assez communes. Lorsqu'on parle de critères de réussite, de critères d'évaluation, c'est bien d'avoir un regard qui est avec une entrée disciplinaire et donc didactique. C'était que ce soit au cours de ces entretiens collectifs disciplinaires ou ensuite journée de restitution ou la journée de formation, quand je vous expliquais comment je l'ai organisé, c'était de créer vraiment le plus possible un espace dialogique qui est, quand on a parlé d'un point de vue des élèves avec Jean-Philippe à l'instant sur des débats de recherche à viser, on va dire, de débats entre élèves. Là, cette fois-ci, c'est de viser, pourquoi pas, des dialogues, des débats, des questionnements entre collègues. Et donc, cette motricité du dialogue, comme dit Claude, c'est vraiment dans le but de faire expliquer des pratiques, de les confronter, parfois, effectivement, d'ouvrir le champ des possibles, dire « Ah bon, toi, tu fais ça, mais toi, tu te poses cette question-là de cette manière-là. Ah bon, j'avais pas vu ça forcément. » Il y a eu vraiment, je trouve, des échanges, très intéressants en termes de prise de conscience que parfois le collègue avec qui on parle tant de choses a des pratiques ou des astuces différentes pour aborder l'évaluation sans notes ou pour faire face à tel ou tel dilemme dont on va reparler ensuite. Donc là, je n'ai pas marqué très longtemps, donc j'ai mis, qui sera en ligne, donc sur le guide d'entretien avec les copilotes, donc comprendre l'origine du projet, les difficultés, les leviers possibles, et puis pourquoi pas quelques effets observés de leur point de vue. Le guide d'entretien avec les enseignants, le retour historique. Je leur ai demandé un effort de mémoire au début, parce que là, on était sur peut-être 3 ou 4 ans dans cette mise en place. Donc là, le but était de se remettre dans l'état du lancement de cette expérimentation. Qu'est-ce que ça a bougé chez vous? Qu'est-ce que ça a provoqué? Est-ce que vous avez eu des peurs, des difficultés, etc.? Est-ce que vous voyez des avantages maintenant au retrait des notes? Est-ce qu'il y a vous pensez avoir changé vos pratiques d'évaluation, mais également d'enseignement? Est-ce que vous voyez des effets en termes d'apprentissage des élèves? Et puis, des premières questions, peut-être plus d'un côté conceptuel ou recherche, les liens entre compétences et connaissances, les liens entre compétences et performances, les liens entre enseignement et par compétences et évaluation par compétences. Est-ce que c'est toujours facile d'articuler les deux ou pas? Des questionnements autour des types d'évaluation. Est-ce qu'on a vraiment bien conscience, tout à l'heure on parlait de stratégie métacognitive, si on est d'un point de vue professionnel, est-ce qu'on a toujours bien conscience des types d'évaluations que l'on mène, des moments auxquels on fait passer ces évaluations, des buts qui sont derrière, des intérêts pour les élèves, des intérêts pour nous en tant qu'enseignants, d'un point de vue pédagogique ou didactique. Je les ai interrogés, les collègues également, sur le lien entre évaluation et tâches complexes, et puis sur, entre guillemets, une espèce également de prescription, là, sur le nouveau livret de compétences... À chaque fois, en avançant, nous avons tenté d'articuler des objectifs scientifiques et des objectifs pour la recherche et la formation. Donc, j'en ai déjà parlé de cela, donc je vais passer pour arriver à la première année. Ça, c'est le bilan que j'ai présenté donc, en novembre 2017 aux collègues, que j'ai simplifié bien sûr ici, en une seule diapo. Donc voilà, préoccupation initiale des enseignants, bilan de cette première année, comment faire sans les notes, comment on peut articuler évaluation et enseignement. On a été assez confronté à un obstacle, en tout cas à dimension institutionnelle, le lien entre l'approche par compétence et puis l'orientation, avec on arrive en fin de troisième où nécessairement on a besoin d'apporter des moyennes. Alors maintenant, c'est plus des moyennes, ce sont des points, hein, des compétences transformées en points avec des barèmes, etc. En tout cas, ça questionne, hein, sur cette approche à différents moments où la norme scolaire peut être à nouveau imposée quelque part. Les liens, comment on peut construire une évaluation ou des évaluations bienveillantes. Donc voilà, comment réfléchir, ce qui est revenu régulièrement, notamment on avait vu avec les collègues IPR, sur les critères de réussite, de validation. Une réflexion également où, pour amener ce projet, cette expérimentation, cette innovation, il avait été présenté tous les travaux de docimologie sur les limites de la notation, notamment la notation la française sur 20, etc., avec la grande subjectivité que l'on connaît des mêmes devoirs faits corrigés par différents, enfin, par plusieurs profs de mathématiques. Même en maths, il y a des différences de 3, il y a des écarts types importants dans la façon de noter les élèves. Mais est-ce que l'approche par compétence gomme totalement ou pas la subjectivité de l'évaluation? Enjeu donc pour la recherche et la formation, c'est ce que j'ai présenté aux collègues. Et donc on a tenté de monter, comment dirais-je, une journée de formation, toujours dans la co-construction. Donc je suis retourné voir l'équipe de direction pour voilà, reprendre le pouls, comme on pourrait dire, voir s'il y avait des choses qui avaient bougé ou pas. Parce qu'entre le mois de novembre 2017 et la journée de formation a eu lieu en avril 2018. Donc là, je vous ai mis, bon, voilà, c'est, on va dire, c'est l'assise scientifique qui est derrière ça. Claude parle de disputes de métiers, de disputes professionnelles réglées. C'est bien le fait de faire interagir les collègues les uns avec les autres sur des thématiques particulières, des thématiques qui sont liées à des préoccupations précises, hein, donc qui ont émergé des travaux, enfin des discussions précédentes. Et donc là, on est vraiment sur une articulation où les préoccupations, elles sont à la fois objet de recherche, parce que égoïstement, c'est ce qui m'intéresse moi pour communiquer ou pour publier, et puis elles sont également source de développement professionnel, parce que ça amène les enseignants à se questionner les uns les autres. « Ah bon, toi, tu fais comme ça? Toi, c'est un problème pour toi? Moi, non ben, ?» etc. Moi, j'aborde ça comme ci ou comme ça. Ça ouvre de nouvelles perspectives, donc de réflexion, de travail. Parce qu'avec cette phrase de Clos, un ouvrage collectif, hein, « Seuls les collectifs eux-mêmes peuvent opérer des transformations durables dans leur milieu de travail. » Donc je vous présente la journée de formation, donc les thématiques que j'avais proposées durant ces 6 heures de formation. J'avais co-animé cette journée avec Jean-Pierre Auvray, à qui je fais un clin d'œil ici. Et donc voilà, la question centrale, c'était reprendre les principaux questionnements et préoccupations autour des classes sans notes. Et il y avait un apport, on va dire, de 5-10 minutes théoriques autour de toutes ces thématiques. Et ensuite, il y avait une grosse demi-heure d'échange, voilà, des collègues, même entre eux. Et même une dimension, pour être franc avec vous, sur la, si je commence à gauche, comparaison internationale autour de la notation, je pensais aller assez vite. Et puis, ça a vraiment suscité un tas d'échanges et de débats sur ce qui se faisait dans d'autres pays et fait réfléchir à ce qu'on fait, nous ou pas, voilà, sur différentes. Donc voilà, toutes ces relations, nature et fonction des évaluations, pourquoi et comment j'évalue, à quel moment, les débats sur comment je valide les compétences, les liens avec la motivation dont on avait déjà parlé tout à l'heure, avec une focale plus précise sur le sentiment d'efficacité personnelle développé par Bandura, perspective de l'auto-évaluation, les liens avec les prescriptions sur conforter une école bienveillante et exigeante, et là je fais un clin d'œil à l'enquête que j'ai menée en 2016, dont l'article et même le numéro thématique va sortir à la fin du mois ou en janvier, un numéro sur la bienveillance à l'école dans la revue scientifique Questions Vives, des réflexions en termes de posture. Voilà, quand tout à l'heure on a parlé d'observation de l'enseignant en termes de différenciation, qu'est-ce que ça questionne en termes de posture professionnelle, quand on parlait de Buchon tout à l'heure, notamment autour de voilà, penser, dire, faire, mais également en rajoutant observer et écouter. Questionner des situations caractéristiques de ses préoccupations autour de l'évaluation. Ce qui avait été choisi, finalement on n'avait fait qu'un atelier autour de ça, c'était des situations qui paraissent anecdotiques, ordinaires, des situations de correction. C'est-à-dire faire échanger les collègues autour de situations de correction. Comment je m'y prends pour corriger tel ou tel devoir, telle ou telle évaluation avec mes élèves. Et ça a été extrêmement riche, les échanges à ce sujet-là. Pardon. La question de la communication, qu'est-ce qu'on communique aux familles, aux élèves? Là, on est aussi au cœur de dilemmes sur la quantité d'informations, les items ou pas communiquer, qu'est-ce que j'explique, qu'est-ce que je précise, qu'est-ce que j'explicite ou pas. Il y a un gros travail dans ce collège avec les collègues qui ont mené depuis plusieurs années, donc, et qui m'ont fait voir leurs documents, qui ont évolué année après année, voire même au cours de l'année. Et donc, c'est vraiment un collège qui est toujours en réflexion sur cette préoccupation. Donc là, voilà, focal sur finalement recentrant, j'allais dire mon job de chercheur, c'est de recentrer et d'interpréter autour donc de ici sept principaux dilemmes. Donc dilemmes sur la nature et la quantité d'informations à communiquer aux familles, je vais en parler un instant. Des dilemmes sur la nature des objets d'évaluation. Qu'est-ce que j'évalue? Est-ce que ce que j'évalue, ça correspond vraiment à ce que j'ai travaillé en situation? Est-ce que ce que j'évalue correspond aux attentes, au programme? Qu'est-ce que j'évalue? Dilemme sur la cohérence des situations. Parce que si on est sur une approche par compétence, les puristes diront que tout doit se faire par situation complexe, et que même, normalement, l'évaluation devrait faire avec des situations inédites. Donc il y a des débats autour de ça, mais ce sont les enjeux du débat. Et donc voilà, il y a eu des échanges avec les collègues là-dessus. Est-ce qu'on donne les mêmes situations d'évaluation que dans les situations d'apprentissage ou pas? Est-ce que c'est l'entraînement, etc., etc. Des dilemmes autour de la précision et de l'objectivité. Parce que si on ne se met pas d'accord sur les critères de réussite, les critères de validation, si d'un collègue à l'autre, ça peut varier, on va retomber dans les mêmes travers que ce qu'on critiquait pour la notation chiffrée. Donc comment faire un travail d'harmonisation entre collègues pour arriver à augmenter l'objectivité et à réduire la part de subjectivité de l'approche par compétence? Des dilemmes autour des représentations des enseignants eux-mêmes sur la notion même de compétence, ou plutôt sur l'expression « c'est quoi un élève compétent ?». C'est-à-dire que quand je valide le livret, il y a un moment, je vais me dire pour telle dimension, tel champ, ou voire telle discipline, c'est quoi un élève compétent en anglais en troisième? C'est quoi un élève compétent en mathématiques en CM2? Et cette expression, chez certains collègues, elle fait obstacle. Voilà, on pourrait quasiment parler d'obstacle épistémologique, parce qu'elle fait obstacle à la réflexion. Parce que est-ce que être compétent, c'est maîtriser toutes les compétences? Ça fait glisser sur ce que Pernoud dit au début, j'ai pas toupé sur la première diapo, la notion d'expertise. Alors que quand on est dans une phase d'apprentissage, la compétence, on est avec des paliers progressifs. Et le mot compétent, chez certains collègues, voilà, pour expliquer ce dilemme, c'est un frein pour eux. Donc c'est lié à une autre question. Est-ce qu'on évalue des compétences ou des performances ou des productions? Enfin voilà, une question à se poser. Des dilemmes autour des prescriptions, j'en ai parlé tout à l'heure, articuler bienveillance et exigence. Dans l'enquête que j'ai menée en 2016, c'est le point clé. En même temps, c'est l'axe 2 de la refondation des REP, conforter une école bienveillante et exigeante. Et cette articulation, vraiment, finalement, peut-être que c'est même l'essence même de la pédagogie, autour de ces contradictions possibles qui ont été déjà, développées par des prédécesseurs. Des dilemmes sur les fonctions, finalement, la question, si les classes sans notes ont vraiment amené une grosse réflexion de l'équipe pédagogique autour de ça, c'est sur les fonctions des évaluations. Ça sert à quoi, mes évaluations? Avec des questions simples. Quand est-ce que j'évalue? Si j'évalue uniquement en fin de période, est-ce que ça n'a pas du sens? Pourquoi j'évalue jamais en début de période et en milieu de période? À quoi ça sert, les évaluations? Si ça sert à remplir un livret uniquement, quel sens ça a? Est-ce que ça sert à l'institution, à communiquer, ou est-ce que ça sert à l'élève pour eux? On parlait tout à l'heure de métacognition, encore une fois, ou d'explicitation, pour comprendre quelles sont les marges de progrès qu'il a devant lui. Donc voilà, pour faire un bilan en une minute, donc j'ai trouvé que c'était une collaboration, en tout cas de mon point de vue, et des collègues qui ont participé notamment à cette journée de formation, très enrichissant. Donc je remercie ici l'équipe du collège. Il y a eu des différents temps, il a fallu un temps vraiment, même pour revenir discuter avec l'équipe de direction, pour prendre le pouls, essayer de mieux comprendre les attentes, les préoccupations. Un temps nécessaire aussi pour expliciter les perspectives de recherche ou pas. Ou également, parfois, un temps pour expliciter que telle question est plutôt une question de type objet de recherche, savoir si on évalue des compétences ou des performances, c'est pas d'un point de vue de la prescription de dire « attention, il faut tout mettre par terre, ce qu'on entend depuis des années ». Le but n'est pas là. Le but, c'est de réfléchir si d'un point de vue, on va dire, de chercheurs, notamment en psycho, etc., est-ce que ce qu'on appelle compétence est bien une compétence? Donc de distinguer pour pas qu'il y ait de tension plus que nécessaire. Des tensions intellectuelles, mais pas au-delà. Donc voilà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'approche de l'ergonomie cognitive de l'activité enseignante, ça offre cette possibilité-là d'avoir cette double articulation, que les préoccupations et les dilemmes soient à la fois objets de recherche et source de développement professionnel. Je vous remercie.